Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo d'interview pour ce Soft Skills Day en compagnie aujourd'hui de Adrien Dufour. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu es directeur de clinique, donc tu diriges un établissement de santé et donc un poste de direction, de management, et qui t'amène au quotidien à utiliser tes soft skills. Tu as suivi et tu suis encore d'ailleurs le programme praticien en soft skills. Mais avant de parler de management et de soft skills, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours?
Oui, bien sûr. Donc, merci pour l'occasion qui m'est donnée. Et donc, je suis directeur général d'une clinique ici à Namur, en Belgique. À la base de ma formation, je suis infirmier spécialisé dans tout ce qui est soins intensifs et aide médicale urgente. Puis, j'ai fait une licence en gestion hospitalière. Et de fil en aiguille, j'étais amené à prendre des responsabilités dans le domaine infirmier. Et puis, comme directeur du département infirmier, et directeur du département informatique également, et de la communication. Et depuis maintenant 18 mois, je suis directeur général.
D'accord. Et tu gères, rappelle-moi combien de personnes tu gères par rapport à ta
Donc,
clinique.
en termes de personnes ici au sein de l'institution, tout statut confondu, c'est plus ou moins 1300 personnes.
Waouh, d'accord. Donc comment on fait pour gérer autant de personnes dans son quotidien?
Mais alors, ces personnes sont certainement pas gérées de ma seule personne. Il y a d'abord une équipe qui est un comité de direction où l'institution est découpée en départements, et chaque directeur de département a des responsables d'équipe et des responsables de proximité qui permettent d'administrer l'ensemble des personnes. Alors évidemment, cette découpe, permet d'avoir une proximité qui est importante, mais il faut aussi que, tant dans la voie descendante que dans la voie remontante de la ligne hiérarchique, il y a des valeurs qui soient partagées, et donc vraiment pouvoir développer un cadre de discussion, un cadre de partage de mission, de vision, et ça c'est tout l'enjeu du comité de direction, et de s'assurer que toute l'information puisse être accessible pour tous les collaborateurs en fonction de tout ce qu'on peut, en fonction de sa responsabilité en fait. Et donc, un exemple, c'est les comités de direction se réunissent 2 fois par semaine, 1h30 sur la stratégie, 1h30 sur le day-to-day. Mais tous les mois ou tous les mois et demi, on a une session avec le comité de direction, mais orientée gestion transversale. Donc, tous les responsables d'équipe ou responsabilités transversales participent à ces réunions. Donc, ça fait plus ou moins 80-90 personnes, où on va travailler sur une information, sur du même contenu, le but étant de fédérer et d'amener une même vision sur des sujets communs. Ici, dernièrement, c'était sur la communication et les médias sociaux. Voilà. Donc, ça permet de questionner, de se positionner. Et un autre exemple, c'est en 2024, on va travailler complètement sur un plan stratégique, et dans la révision de ce plan stratégique, on va inclure un maximum de parties prenantes internes, en ce compris les patients, que pour pouvoir dire, voilà, on veut que le souhait est que ce plan stratégique puisse être la propriété de tout le monde. Ok, c'est l'institution, mais c'est la propriété de tout le monde. Et donc, il y a une méthodologie qui est mise en place par rapport à ça, quoi. Voilà.
D'accord, donc il y a énormément de l'intelligence relationnelle dans tout ça, parce que donc si j'ai l'impression dans ton style de management, tu es très inclusif quelque part, et donc pas très descendant, mais vraiment essayer de collaborer avec d'autres personnes. Et donc j'ai deux réflexions de par rapport à ça, c'est que souvent on dit bah, plus on monte dans les échelons du management et plus on est amené à utiliser des soft skills et à moins de faire de technique. Et c'est vrai que si j'ai bien compris, bah, le début de ta carrière, tu étais bah, beaucoup sur du technique, même si tu avais une grande partie très relationnelle hein, en tant qu'infirmier, et qu'aujourd'hui, bah, en étant dans un poste de management plus élevé, eh bien, c'est beaucoup plus de soft skills. Est-ce que tu as observé ça également par rapport à ton parcours?
Oui, allez, c'est évident. Et ce qui peut être mobilisé en début de carrière comme soft skill n'est plus du tout le même ici dans ma fonction. Et donc, allez, si on pouvait parler plus de compétences techniques et de soft skills à l'approche du patient, par exemple, quand j'ai commencé, aujourd'hui, il est évident que la communication et les relations interpersonnelles sont vraiment partie prenante. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler, ce que je vais beaucoup plus travailler, ça va vraiment être le leadership avec la capacité de fédérer ou la capacité à inspirer ou la capacité à motiver, la gestion du stress, la résilience. Quand nous sommes face à une crise comme on a pu connaître en 2020 sur la crise de la Covid, ben, il faut pouvoir garder la tête froide et pouvoir toujours imprimer une forme de direction. Il faut que cette direction puisse être comprise par tout le monde. Donc, c'est tout l'important de pouvoir vraiment fédérer et de continuer. Alors après, évidemment, on va se retrouver sur ben, la résolution de problèmes aussi, hein, qui a plus la même nature, qui a plus la même vision, avec une logique qui est ben, l'analytique. Mais l'analytique, c'est bien, mais une fois qu'on a toutes les données, et une fois qu'on a analysé les choses, comment on arrive à sortir de nouveaux éléments. Donc, oui, là, on peut déployer toute l'intelligence collective, bien sûr, mais donc on va aller chercher de la créativité, on va aller chercher l'esprit critique. Ce qui est important, quand on discute au sein d'un comité de direction, par exemple, c'est de pouvoir travailler sur un esprit critique pour avoir de la collaboration, pour avoir de la communication. Parce que c'est ce qui va vraiment porter la différence. Après, le reste, on peut rajouter en fonction des situations, de mobiliser plus l'une ou l'autre. Qui sont importantes, mais je pense vraiment que tout ça, ce travail à la lueur de allez, d'amener une vision, d'amener une pensée stratégique, et donc dans cette volonté d'un certain pragmatisme et de pouvoir continuer à transmettre ça et donc de communiquer. Et c'est au-delà de dialoguer, c'est communiquer en voulant transmettre, en essayant de viser l'engagement des collaborateurs. Donc, allez, il est clair que dans une relation qui peut être une relation, dans un premier temps, qui était dans mon début de carrière, dans une équipe bien ancrée en tant que collaborateur au chevet du patient, ben, toute la logique a changé puisqu'on est passé d'une relation individuelle à une relation collective, majeure, avec des intérêts différents, des enjeux différents. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je suis directeur général, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que je suis pas expert dans quelque chose, entre guillemets, et je pense qu'au plus on tend vers les généralistes, entre guillemets, au plus on doit mobiliser des soft skills qui vont permettre de pouvoir se positionner dans des situations, parce que des gens compétents, ils sont ici présents au niveau du comité de direction, et on travaille vraiment en binôme sur des questions bien précises qui touchent le métier, et on permet de ça. D'échanger, de s'alimenter. Donc, c'est vraiment arriver à challenger les personnes pour vraiment arriver à une prise de position qui soit la plus optimale possible dans le contexte. Donc, voilà, Jérôme, l'évolution au niveau des soft skills et ma vision des choses.
Et tu parlais que, voilà, bah justement par rapport à cette évolution, tu as été amené à développer certaines soft skills. Donc, que tu as parlé de résolution de problèmes qui a évolué au fil du temps, tu as parlé de leadership, tu as parlé de résilience, etc. Donc, comment fais-tu ou comment as-tu fait pour pouvoir développer ces soft skills qui t'ont permise finalement à être en mesure de porter ces responsabilités, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, le poids des responsabilités aussi, et de pouvoir mener à bien ta mission.
Oui, allez, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Un, c'est l'hôpital est un terrain d'apprentissage énorme. Tous les jours, plusieurs fois par jour, il y a des occasions d'apprentissage. Et donc, c'est le fait de se dire, bah, tiens, par rapport à telle ou telle situation, est-ce que ça a bien fonctionné, pas bien fonctionné? Et si ça n'a pas bien fonctionné, pourquoi et comment on peut re-questionner ça et essayer de travailler sur une mentalité de croissance. Et de se dire, globalement, on développe ça et on travaille aussi sur la curiosité. Et donc la curiosité, c'est pas le fait uniquement de lire des bouquins ou d'assister à des formations, mais c'est de challenger aussi dans le fait de dire, est-ce que l'approche qui a été reprise ici est correcte? Oui, ok, d'un point de vue théorique, elle est correcte, mais comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Parce qu'il y a certainement des éléments qui ont coincé. Et donc, par exemple, ce qui était apprécié dans les discussions qu'on a pu avoir sur praticien 1, c'est le fait de pouvoir échanger à plusieurs et d'amener des regards différents. Ou, comme Caroline a déjà évoqué, tout ce qui était chapeau de Bono, par exemple, et d'occuper des visions différentes autour d'une question, sans poser de jugement, en disant, mais tiens, tel point de vue, tel point de vue, tel point de vue, tel point de vue. Ça force aussi beaucoup. Vraiment de challenger dans l'interpersonnel et de dire, ok, tiens, moi j'ai fait ça dans telle situation. T'aurais fait quoi dans telle situation et pourquoi et continuer à croître comme ça. Bon, après, ça demande ou ça implique le fait de ne pas rester sur ses positions et vouloir aller de l'avant. Et donc, je reviens vraiment sur cette mentalité ou sur cet esprit de croissance qui est fondamental. Parce qu'après, les formations, ben, il en existe, la tienne particulièrement, et ça permet de se projeter et de mettre aussi du concret sur de l'abstrait. Parce que bien souvent, quand on parle de soft skills, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Avoir un peu un référentiel et se dire, ben non, ok, tout compte fait, une soft skill, c'est ça, ok. Et comment la travailler? Hein, en modélisant aussi. Et donc, c'était assez amusant. C'était assez amusant de se dire, ben, dans la formation ici avec toi, c'était le fait de dire, ben, on pourrait modéliser une personne et en quoi, quelles sont ses soft skills déterminantes, et en faire un outil de management. Je m'explique, c'est le fait de dire, ben, tiens, voilà, si tu prends telle personne, ou bien si tu prends toi, quels sont tes soft skills que tu penses importantes pour toi, quels sont tes points de force, hein, quelles sont vraiment tes forces, de pouvoir benchmarker ou pouvoir comparer avec le point de vue des autres, et puis de dire, mais regarde, ça c'est ta vision des choses, ça c'est la vision des autres personnes. Ok, c'est conforme, ok, il y a un gap, qu'est-ce qu'on met en place pour développer ça? Où est-ce que dans ta fonction, dans la modélisation de ta fonction, est-ce qu'il n'y a pas des soft skills qui devraient être travaillés encore plus que ce qui est travaillé aujourd'hui, par exemple? Et donc, c'est vraiment. Pardon. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est sur base, par exemple, des outils que toi tu as pu expliquer, apporter sur la modélisation et sur autres. C'est pour le reproduire dans un autre contexte. Et de cet autre contexte, allez, encore mieux développer les personnes, quoi.
Merci pour ton partage. Donc, en effet, là, tu as mentionné ce qu'on fait dans le programme praticien. Donc, tu as mentionné l'atelier Chapeau de Bono, donc animé par Caroline de Blander. Il y avait aussi donc, les mentorats collectifs, je crois, où justement où chacun peut parler de sa problématique et apporter sa version, une expérience vécue, parler de la modélisation. Donc, et si tu devais résumer quelque part. Bah, ce que t'as apporté ce programme praticien, notamment par rapport à ton métier, bah, qu'est-ce que ce programme-là t'a apporté par rapport à ton métier?
Alors, ce que le praticien a amené dans mon métier, c'est la mise en application concrète et vulgariser les soft skills. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup parce que, par exemple, une modélisation, bah, si on rend ça un peu trop compliqué, les gens n'adhèrent pas. Par contre, si on arrive à en faire comprendre, dire, bah, tiens, voilà, prends un leader, ce leader, qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on apprécie chez toi? Comment on modélise, comment on définit, comment on fixe le cap à atteindre, entre guillemets, et de se dire, bah, tiens, voilà, par exemple, tu vas être dans telle situation aussi, c'est un exemple, tu vas être dans telle situation aussi. Si tu devais mettre des personnes autour de la table pour prendre une décision, tu mettrais qui? Voilà. Et pourquoi? Et donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Et donc, c'est vraiment ce genre de débat et d'abstraction qu'il faut amener pour pouvoir se dire, bah, ok, on va chercher allez, on va chercher un prépositionnement qui va permettre de se préparer à ce que pourrait être une réunion, ce que pourrait être un schéma de développement. Voilà. Ouais.
Excellent, merci. C'est super intéressant d'avoir sur toi, parce que c'est vrai que souvent on parle de voilà comment le praticien ben, ça m'a apporté à titre personnel, parce que oui, en effet, on parle de connaissance de soi, etc. Et là, je trouve ça intéressant de voir en quoi ben, on peut appliquer ces outils aussi dans une dynamique de management, d'accompagnement. Et parce que, ben, comme tu dis, hein, les soft skills, ce sont des compétences transversales, les outils sont transposables dans d'autres situations. Et l'objectif, ben, c'est de voir comment on peut utiliser cette boîte à outils dans des circonstances différentes. Et oui, et de mettre en pratique, comme tu dis. Et super. Et maintenant, là, j'aimerais bien creuser un peu plus, toujours dans la partie management et par rapport à ton expérience et aux soft skills dans le cadre du management. S'il y avait trois grands enseignements que tu as pu avoir donc par rapport à ton parcours de manager ou de directeur, ce seraient lesquels?
Allez, les trois. Le premier, le premier enseignement, c'est j'aime bien cette phrase qui dit nos pensées ne sont pas la réalité et nous ne sommes pas nos pensées. Pourquoi? Parce que ça invite à avoir des communications, enfin des conversations courageuses et d'aller chercher chez l'autre l'explication de bah tiens qu'est-ce qui se passe dans les faits et de pas se projeter. C'est comme quelqu'un qui dit bah voilà il est 15 h, ça fait un quart d'heure que j'attends la personne, elle est en retard, la personne est en retard parce qu'elle n'a pas envie de me voir. Non, on n'en sait rien, ça tombe, elle a un pneu crevé sur l'autoroute, et ok. Donc c'est concrètement remettre du factuel, et de la communication courageuse, de la conversation courageuse dans les éléments, ça c'est vraiment la première chose. Le deuxième élément, c'est de jamais baisser les bras. Et c'est de se dire que au bout d'un événement, au bout d'un tunnel, il y a toujours une lumière. Et donc, c'est vraiment garder cet optimisme et cette motivation à aller chercher de l'engagement et à aller chercher le positif. Et le troisième, c'est garder la tête froide, quoi. C'est vraiment garder la tête froide. Garder la tête froide et le faire avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que bon, moi j'ai la chance d'être ici le directeur général de l'hôpital. On a la chance d'avoir 1 229 collaborateurs, je veux dire, c'est comme ça. Mais c'est toutes des personnes qui œuvrent au quotidien au développement de l'entreprise. Et que sans ces personnes, on ne serait pas grand-chose. Et donc, ça, c'est vraiment le troisième enseignement. Donc, le fait de rester la tête froide, c'est de se rappeler en permanence que. Ok, seul, c'est cette phrase, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est vraiment garder cette vision sur la force du collectif, quoi. Ouais.
Excellent, merci. Merci pour ton partage. J'aimerais juste rebondir et creuser un peu plus sur le premier enseignement. Tu dis que voilà, nous ne sommes pas nos pensées. Enfin, je trouve qu'il y a un truc vraiment à creuser là-dessus. Et tu parlais du fait d'avoir des conversations courageuses. Qu'est-ce que
Ouais.
tu entends par avoir des conversations courageuses?
Ouais, c'est aller oser assumer sa prise de position et aller trouver l'autre pour pouvoir entamer la discussion. En fait, bien souvent, il y a des difficultés qui naissent de l'absence de communication entre les personnes. Et puis, de ces difficultés de communication naissent des conflits. Et de ces conflits deviennent des situations invivables. Alors qu'on aurait pu désamorcer à un moment donné la chose si on prend son courage à deux mains et qu'on va trouver la personne en disant, écoute, voilà, je n'ai pas compris la situation, je ne veux pas qu'on va sur un malentendu et donc j'aimerais bien comprendre l'élément qui déclenche ça chez toi où je vais t'expliquer mon point de vue par rapport à telle situation. Mais en te l'expliquant, je laisse la porte ouverte à ce que toi tu puisses me dire. Ton point de vue. Et donc, c'est vraiment essayer d'être dans une relation gagnant-gagnant en permanence pour viser le fait de se dire que on va chercher du positif dans la relation et on va chercher quelque chose qui est vraiment important. Allez, il y avait deux choses. Il y a quand on entend une histoire, voilà, donc c'est vrai qu'on ramène toujours aux faits, mais il y a toujours ces trois questions qui sont utiles, c'est les fameux trois tamis de Socrate, là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est utile? Ok, et donc si on se pose déjà ces questions-là, je pense qu'on on casse déjà on casse déjà une spirale qui peut être négative sur le fait de pas alimenter, sur le fait de pas colporter. Et la deuxième chose, c'est vraiment le fait de se positionner sur la révélation à l'autre, entre guillemets, dans le fait de dire quand il y a quelque chose, ouais, peut-être que il faut peut-être parfois un peu s'ouvrir sur OK, pourquoi la situation telle qu'elle est rencontrée cause une émotion qui est peut-être difficilement gérable hein, ou qui est contrariante. et de définir ensemble un contrat pour y arriver. Ça me paraît aussi quelque chose d'important. Donc les conversations courageuses pour moi rentrent vraiment là-dedans. Et puis à un moment donné, il y a aussi le fait de pouvoir dire les choses indépendamment d'un contexte, personnel. Bien souvent, on confond la personne et la fonction. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est compliqué, c'est qu'on se réserve de dire certaines choses parce qu'on est attaché à la personne, mais est-ce que la personne colle dans la fonction qu'elle exerce et est-ce que la fonction telle qu'exercée correspond aux attendus? Et donc, c'est ça les conversations courageuses. C'est de pouvoir aussi dissocier personne-fonction et pouvoir dire à un moment donné, la personne peut complètement s'y déraper, hein, en tant que fait. Mais c'est d'arriver dans le champ des possibles de toute cette discussion.
Super intéressant, merci beaucoup pour ton partage. Et ça fait penser également à ce qu'écrit Brené Brown dans ses ouvrages sur justement le leadership et qui explique que bah, le courage, quand tu parles de conversation courageuse, souvent on peut avoir cette image de ouais, je vais vider mon sac, je vais tout lui dire et je vais balancer mon truc et y aller en mode confrontation. Alors qu'en fait, une conversation courageuse, comme tu l'as décrit, c'est plus à la Brené Brown quelque part avec vulnérabilité, authenticité, en disant bah voilà. Moi, je suis challengé là-dessus, mais je pense que c'est important qu'on y aille tous les deux. Et voilà. Et quelque part, bah, c'est beaucoup plus productif que de se dire bah, je vais aller pour gagner et que finalement, c'est destructif et que ça ne fait avancer personne finalement. Et j'imagine que c'est ce que tu entends par le win-win dans les conversations courageuses.
C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, il n'y a pas d'intérêt à enfoncer l'autre en fait. Il n'y a aucun intérêt à enfoncer l'autre. Par contre, il y a, en fait, c'est toute la difficulté aujourd'hui où on confond bienveillance et courage et conversation courageuse. C'est que derrière la bienveillance, on n'a jamais dit qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui ne fonctionnait pas. Être bienveillant, c'est peut-être faire reconnaître aussi, permettre à l'autre de reconnaître qu'il a ses limites, comme accepter que l'autre nous renvoie qu'on a nos propres limites. Et donc, c'est là où je rejoins la logique de la vulnérabilité, la logique de la bienveillance, mais dans ce qu'il y a de plus profond et de plus beau. Et donc, pas dans ce qui est aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, il ne faut pas assimiler être bienveillant et être gentil avec tout le monde. C'est pas ça être bienveillant. Donc, tu vois, c'est la vulnérabilité, la bienveillance, pour moi, sont des éléments qui sont très, très importants, mais qu'il faut accepter aussi, où il faut accepter. Ça part de vulnérabilité aussi, hein.
Super. Merci beaucoup pour ton partage, c'était passionnant. J'aimerais encore discuter encore plus longtemps de ça, mais voilà, pour là, je pense qu'on a touché l'essentiel pour cette interview. Donc merci à toi, Adrien. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot, un mot de la fin que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui?
Mais donc, le mot de la fin, je pense que c'est rester curieux, rester engagé. Parce que c'est ce qui permet d'avancer, de se poser des questions et de faire de belles rencontres, hein, comme on a pu faire ici avec Patricia Moncoeur. Voilà.
Merci beaucoup Adrien et à très bientôt.